Europe 1 Culture Média.
9h-11h.
Philippe Vandel.
Merci de nous retrouver si vous nous rejoignez seulement et merci si vous êtes là depuis le début de l'émission. À suivre, Bruno Donnet pour ses télescopages. Notre invitée, c'est la comédienne Isabelle Nanty à l'affiche des Tuches 4. Ça sort demain. Lisa Marie Marquez va nous dresser son portrait pré-fame. Tout ce qui est arrivé à notre célébrité avant la célébrité. Et puis Marc-Antoine Lebray pour clore l'émission. Bonjour Caroline Speller.
Bonjour Philippe.
Stéphanie Loire, bonjour.
Salut Philippe Vandel.
Et bonjour Bruno Donnet.
Bonjour Philippe.
Alors Bruno, tous les jours, vous observez ici les curiosités médiatiques. Et ce matin, vous vouliez nous dire un mot de la couverture du magazine Têtu, couverture qui vient d'être censurée par la régie publicitaire de la RATP et de la SNCF.
Oui, alors attention, hein, mise en garde si vous êtes amoureux du progressisme ou que vous avez l'esprit cartésien solidement chevillé au corps, éloignez-vous de la bordure du quai car l'histoire que je vais vous raconter risque fort de faire siffler vos oreilles. Télescopage ce matin, Philippe, entre deux publicités mais surtout entre deux valeurs affichées dans un spot de pub pour la SNCF et une affiche censurée par la même SNCF, je vous explique.
All aboard for Night Train.
Ça s'est passé en fin de semaine dernière. Média Transport, c'est l'agence qui gère les pubs et l'affichage dans les stations de la RATP et dans les gares de la SNCF, a dit non. Non à une affiche du magazine gay et lesbien Têtu qui montrait le jeune Bilal Hassani grimé en Christ. Alors, pourquoi ? Eh bien parce que pour avoir droit de citer dans les gares, il faut, a dit l'agence, choisir des images à caractère moins confessionnel. Allons bon. Mais cette affiche présente-t-elle un aspect blasphématoire ? Non. On y voit simplement le jeune Bilal, très chastement vêtu d'une robe, lever les yeux au ciel dans une posture mi-madone, mi-christique. Et c'est tout. Voilà pourquoi le rédacteur en chef de Têtu, Thomas Van Pouy, s'est posé une question jeudi dernier sur France 5.
La question qu'on se pose, c'est est-ce qu'ils auraient eu la même réaction si la une posait Madonna, Beyoncé ou n'importe quelle autre star de la pop culture dans la même mise en scène.
En d'autres termes, le rédacteur en chef s'est demandé si la censure ne viendrait pas tout simplement du fait que Bilal Hassani revendique publiquement son homosexualité et que le magazine Têtu est un positionnement éditorial gay. Épineuse question et gros caillou dans les sandales de la SNCF à laquelle, avant de répondre, il faut examiner deux choses. 1. L'histoire de la pub, qui est pétrie de détournement des codes de la religion. Vous vous souvenez sûrement, Philippe, de ce curé hein, qui ressemblait furieusement à Fernandel dans Don Camillo.
Don Patillo. Don Patillo.
Et qui se vautrait allègrement dans le péché de gourmandise en boulotant des pâtes.
Des pâtes. Oui, mais des panzani.
Oui. Ou encore de ces bénédictins tout en tonsure et robe de bure qui assuraient la promotion d'un frometon.
Moi je connais un fromage moelleux savoureux, c'est le chaussé au moine.
Amen.
Chaussé au moine.
Et contre lesquels jamais personne n'a protesté, voilà pourquoi leurs spots et leurs affiches ont été vus partout. Et deux, il faut maintenant écouter très attentivement la pub absolument parfaite que la SNCF a créée il y a tout juste 3 mois.
On n'est pas statique, on est progressiste.
Sur un sample interprété par Gaël Faye, la SNCF revendique les valeurs auxquelles elle tient et qu'elle entend promouvoir. Il y est question de progressisme, d'égalité, de féminisme.
Grand féministe, grande gueule, grand de cœur.
On y évoque la tolérance et l'humanisme.
Humaniste jusqu'au bout des ongles, humain jusqu'au fond des tripes.
Et au moment où, à l'image, on voit apparaître un superbe TGV paré des couleurs arc-en-ciel et de la mention 50 ans de fierté LGBT+, initiale pour lesbienne, gay, bis, bi, trans et plus, on entend Gaël Faye prononcer ces mots.
Mais surtout prêt à défiler pour l'égalité, à déclarer des droits pour tous les hommes, pour toutes les femmes.
Spectaculaire paradoxe donc avec la réalité et avec cette affiche publicitaire pour un magazine gay étrangement censuré. Alors voilà, on ne saurait que trop recommander à la SNCF de bien réécouter ce qu'elle dit dans sa propre publicité.
On va pas se refaire, on est parfois en retard, mais on n'est pas retardataire. On est avant-gardiste, on n'est pas coincé, on a un humour hors pair, on n'est pas de mauvaise foi, on est juste un peu paradoxal.
Car oui Philippe, il est certains télescopages qui font mal et qui agissent parfois comme un sérieux coup de pompe dans le train-train.
Merci beaucoup Bruno Donnet. À demain, Caroline Speller, votre indispensable, tout à l'heure sera aux alentours de 10h30.
Oui, et je vais vous parler jeux vidéo avec les héros légendaires du Derzo et Goscinny, Astérix, et je vous garantis, on va baffer du roman.
Vous en citez qu'un, j'imagine que le deuxième c'est Obélix. Stéphanie Loire, votre indispensable.
Moi je vous emmène faire une balade nocturne, si vous voulez bien, vous mettez derrière moi, avec l'intégrale du Beaubizarre, Christophe.
Waouh. Dans un instant, Isabelle Nanty, on va parler du film Les Tuches 4 qui sort demain. Mais d'abord, musique, c'est tout de suite, c'est Francis Cabrel sur Europe 1.
9h, 11h.
Europe 1, Culture Média.
Philippe Vandel.
Y'a pas de langue ancienne, c'est la même toujours. Pour dire les mêmes peines, jurer les mêmes amours. C'est écrit dans vos pages, mieux et bien avant nous. Rockstar del medio d'age, senda balem de vous. Vous, c'est un trait de plume, c'est le pas des chevaux. C'est chanter à vos dames tout ce qu'il y a de plus beau. Leurs âmes et leurs visages, loin au-dessus de tout. Rockstar del medio d'age, senda balem de vous. La fille à la fenêtre qui chante les yeux clos cherche à se reconnaître dans chacun de vos mots. Ça vaut bien davantage que le plus lourd bijou. Rockstar del medio d'age, senda balem de vous. Avec pour seule armure la peau d'un tambourin, sous la hauteur des murs, sous le balcon éteint, où la belle est en cage et son amant jaloux. Rockstar del medio d'age, senda balem de vous. La fille à son fenestro canta l'usel sbarazz et dins cado canso espero se trova a cobal forso mai. Qu'une polie joyeux, rockstar du Moyen-Âge, nous descendons de vous. Geoffrey Rudel, Guillaume, Bernard de Vintadour, Peyre et Bertrand de Borne, sans autre troubadour, on veille à l'héritage, un guitare autour du cou. Rockstar del medio d'age, senda balem de vous.
Et c'est soit l'un soit l'autre. Rockstar du Moyen-Âge, c'était Francis Cabrel sur Europe 1.
9h, 11h.
Europe 1, Culture Média.
Philippe Vandel.
Bonjour Isabelle Nanty.
Bonjour Philippe.
Vous êtes comédienne, on vous a vu dans Tati Daniel, Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain, Astérix, Mission Cléopâtre, Les Profs, Les Tuches 1, 2, 3 et demain 4.
Yes.
J'étais également réalisatrice, Le Bison en 2002, mais surtout metteuse en scène. Nounou, voire gourou, ex-prof de certains comédiens français et pas les pires, Édouard Baird, Gad Elmaleh ou La Troupe des Robins des Bois. Et là, votre actu, je l'ai dit, c'est le film Les Tuches 4. C'est signé Olivier Barou, il y a Jean-Paul Rouve, il y a Claire Nadeau, il y a Michel Blanc, il y a François Berléand. Je ne peux pas dire ce qu'il fait, je peux juste dire que ça sort demain. Il y a 10 ans, Les Tuches avaient gagné 100 millions d'euros. Ils avaient décidé de partir à Monaco. Ensuite, ce fut le rêve américain. Et puis, Jeff Tuche s'est fait élire à l'Élysée. Question simple, et cette fois-ci.
Eh ben, il a quitté l'Élysée, enfin, et donc on l'a suivi. Hein.
Ouais.
Et puis on est retourné à Bouzol, dans le Limarais. Et voilà, maintenant on prépare Noël. On prépare Noël, et puis Cathy souhaite se réconcilier avec sa sœur et son beau-frère. Or, ce beau-frère est vraiment l'antinomique de Jeff Tuche et ça va être la guerre.
Avant qu'arrive le beau-frère, on y est. Cathy souhaite un seul cadeau de Noël, c'est que Maggie, la sœur, soit présente. Le problème, vous l'avez dit, Jeff déteste le beau-frère Jean-Yves. Ils sont fâchés depuis 10 ans à cause d'une histoire de voiture. Et donc, votre mari n'a aucune envie de l'inviter. D'où ce dialogue entre vous et le personnage joué par Jean-Paul Rouve.
Est-ce qu'il va pas, mon Cathy?
Tout va bien, tout va bien.
Attends, attends, arrête. Ah, je te connais comme si on était mariés.
Bah oui, on est mariés, alors, forcément.
Raison de plus. Mais regarde, tu laves les assiettes avant de les mettre dans la vaisselle, enfin.
Et bah, je fais toujours comme ça, hein, si tu regardais un peu, si tu t'intéressais des fois un peu à la vaisselle.
Dis-moi ce qui se passe, mon chicourri.
Bon, bah, c'est pour mon anniversaire. Je voudrais que toute ma famille soit là.
Mais on sera là, évidemment, enfin.
Mais je voudrais que ma sœur soit là aussi. Bon, écoute, je l'ai à tout casser peut-être deux fois au téléphone par an. Tout ça,
bon,
hein, c'est quand même normal que je veuille que ma sœur soit là, mon anniversaire, non?
Mais Cathy, c'est bien, le problème, c'est pas Maggie. Le problème, c'est son mari, ce con Jean-Yves.
Oh, oui, oui, ça va. Hein. Vous êtes chamaillés, là, tous les deux, là, pour des conneries, il y a 10 ans. Et qui c'est qui paye les pots cassés? Ah, vraiment, hein, pas pour rattraper l'autre, hein. Pas un pour rattraper l'autre.
Bah ouais, je vais te dire, Jean-Yves, c'était un con il y a 10 ans. Donc, à mon avis, c'est toujours un con aujourd'hui.
Ouais, t'en sais rien, t'en sais rien. Et puis, il faut laisser sa chance au con!
Qu'il faut vraiment laisser sa chance au con?
C'est la question que j'allais vous poser. Ça pourrait devenir une punchline. Il y en a beaucoup dans les tuches. Il y a deux légendes qui s'opposent. Est-ce qu'elles viennent des scénaristes ou est-ce qu'elles viennent des comédiens, donc de vous? Celle-ci, elle est de qui?
Ça vient de moi. Enfin, ça vient de Cathy.
Ouais.
Parce qu'en fait, moi, je n'ai pas de cerveau quand je joue. Je suis totalement... si je suis bien dans la personne que je joue, c'est-à-dire dans Cathy, si je suis à fond dedans, elle va dire des trucs. Mais il y a même des choses qu'on me rapporte, on me dit « mais elle a dit ça » et je ne m'en souviens pas. Je ne m'en souviens pas du tout, moi, Isabelle.
J'ai découvert, en lisant une interview d'Olivier Barou, le réalisateur, que c'est vous qui avez trouvé « plus c'est vieux, moins c'est... » Non, « plus c'est vieux, mieux c'est bon ».
Oui.
Et c'est pas de vous.
Bah,
c'est d'une. Alors, c'est, oui, il dit voilà, c'est votre tante.
C'est le genre de truc qu'on dit dans ma région. Plus c'est vieux, mieux c'est bon. Et ça se dit plutôt. Et plus c'est vieux, mieux c'est bon.
Avec l'accent de la Meuse. Il y a deux nouveaux personnages dans la saga. Il y a un personnage, Jean-Yves Marteau, le beau-frère, joué par Michel Blanc, et Maggie, qui est jouée par vous, et c'est la jumelle de Cathy. Expliquée.
Voilà. Voilà. C'est. Ce qui était marrant à faire, enfin moi au départ j'avais proposé aux auteurs qu'on prenne une actrice pour jouer ce rôle parce qu'il y a beaucoup de super actrices et puis c'est plus marrant de jouer avec quelqu'un qu'avec soi-même, hein, je vous le jure. Et donc mais ils avaient cette idée vraiment très précise en tête et ce qui était marrant à faire pour moi c'était de faire en sorte que ces deux sœurs qui ont donc vécu la même enfance les transformer complètement différemment selon leur personnalité. Et leurs secrets. Et donc, Cathy, elle, a eu la chance d'être sauvée par Jeff. Et donc, de rester dans la lumière, dans l'enthousiasme, dans le cœur ouvert. Et puis, sa sœur, elle, par contre, elle est en contrôle tout le temps. Elle a choisi une sécurité financière avec son mari, etc. Elle élève son enfant d'une manière très rigoureuse. C'est un peu le noir du blanc.
Et comment on joue avec soi-même? Vous étiez toute seule ou il y avait une répétitrice? Comment ça se passait? Il y avait une doublure? Comment on fait pour jouer avec soi-même?
Pascal, qui est actrice, c'était la doublure de elle et de moi, hein, parce qu'elle jouait les deux personnages en alternance comme moi. Heureusement qu'elle était là. Et après, il y avait des moments où je jouais avec l'enregistrement de moi-même dans l'autre personnage. Et puis, il y avait des moments où il fallait faire des passes sans personne, et donc où j'étais seule, vraiment, avec des balles de tennis à qui je parlais. Donc, c'est pas très. Enfin, c'est pas le truc le plus marrant sur le moment.
Non.
Ce qui est marrant, c'est de le prévoir, de composer ça, mais en jubilation, c'est beaucoup moins plaisant que de jouer avec quelqu'un.
Alors, moi, je jubile parce que mon invité n'est pas une balle de tennis. Mais c'est Isabelle Nanty. On va mieux vous connaître. Vous parliez de l'accent de la Meuse. Lisa Marie Marquez arrive. C'est le portrait pré-fame de l'invité. Culture Média continue.
9h-11h. Europe 1 Culture Média.
Philippe Blandel.
Vous êtes toujours dans Culture Média. Nous sommes en compagnie de la comédienne Isabelle Nanty. On parle du film Les Tuches 4. Et on va mieux vous connaître, Isabelle, avec le portrait pré-fame de Lisa Marie Marquez. Le portrait de notre célébrité avant sa célébrité. Bonjour Lisa Marie.
Bonjour Philippe. Bonjour Isabelle Nanty.
Bonjour.
Vous avez une filmographie impressionnante. Près de 60 films, dont les plus gros succès du cinéma français de ces dernières années.
C'est vrai.
Vous êtes aussi metteur en scène et réalisatrice. Mais comment en êtes-vous arrivée là? On va rembobiner et revenir sur ce qui vous est arrivé avant d'être célèbre. Isabelle Nanty, vous avez grandi dans la Meuse, à Musset, un village proche de Bar-le-Duc. Votre maman est norvégienne, votre papa est à la fois maire du village et patron de l'usine de bois. Et vous êtes la petite dernière d'une fratrie de trois. Enfant, vous parlez tout le temps et vous ne vous ennuyez jamais. Vous imaginez des jeux, vous vous inventez des vies. Par exemple, vous jouez à la dame qui a une voiture et plein d'enfants, ou à l'épouse qui attend son mari qui doit rentrer de la guerre.
Non, c'est vrai.
Ah ouais.
C'est incroyable comme jeu.
Attends, je suis née à Verdun, moi. Hein.
Ah oui,
j'avais
pas
pensé.
Donc
la guerre, tu sais, il y avait des obus sur chaque cheminée. Donc c'était très présent. Voilà.
Et vous êtes aussi spécialiste des imitations qu'on ne reconnaît pas.
Oui.
C'est quoi ça?
Ben, je vais t'imiter quelqu'un, tu ne vas pas le reconnaître. Mais par contre, ben, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ce n'est pas tellement la blague qui est marrante. C'est le charme de la blague. C'est-à-dire, c'est la distance qu'on met avec la blague, je trouve. Tous, on va raconter la même histoire. Elle ne va pas être la même. Donc, voilà. Donc, j'imite très bien. J'imite très bien, mais on dirait à chaque fois que c'est le même. Par exemple, je fais que des morts. Hein. Moi, je suis venue à pied. J'ai jamais prêché.
Bon, on le reconnaît, Yves Montand.
Oui, d'accord. Bah, mais enfin, tu vois, c'est pas terrible. C'est pas de l'imitation.
Ah oui, mais quand même, on a reconnu Yves Montand.
Mais si je fais... Je l'ai avec maman. Bon, bah voilà, c'est tout ce que je peux faire.
Moi, j'ai reconnu Aznavour.
L'été, vous partez en Norvège, dans le pays de votre maman, sauf une année où vous restez à Bar-le-Duc. Et pour le 14 juillet, vous participez fièrement au spectacle de la fête nationale en tant que majorette, affublée d'une casquette en carton.
Oui, il y a des images.
Il y a des images.
Ouais, ouais.
Ah, j'aimerais bien voir ça.
Oui, et comme on n'avait pas les moyens de faire les costumes, tout était en carton, y compris les manchons là. Qu'il y a sur les mains.
Sur les majorettes.
Et qui était agrafée à la graffeuse et elle nous attrapait toujours un peu un bout de peau. C'était horrible.
À l'âge de 8 ans, vos parents vous emmènent voir la pièce de théâtre Oscar avec Louis de Funès. On écoute un extrait.
Aïe, aïe. Heureusement que vous, monsieur Barnier, vous vous en faites pas trop. Au fait, ça marche toujours avec la grande rouge, ça c'est bien Florent. Mais taisez-vous, pour Dieu, ma femme est dans la pièce à côté, quoi. Enfin.
Isabelle Nanty, vous avez tellement ri dans le public que la dame assise devant vous s'est retournée pour vous demander de rire moins fort.
Ouais, j'avais 8 ans.
Ah mais Louis de Funès, ça devait être quelque chose.
Mais
en
c'était
live,
dingue.
Hein.
Et les branquignoles aussi, j'ai eu la chance de voir, grâce à mes parents.
Côté scolaire, à l'école, c'est difficile. Vous aimez la cour de récré et la cantine, mais beaucoup moins les heures de classe. Vous avez beaucoup de mal avec les remarques des professeurs, le fameux peut mieux faire, censé encourager, mais qui n'encourage pas du tout. Et puis, vous êtes dyslexique et aussi dyscalculie, c'est-à-dire que vous avez une altération de la capacité à comprendre et à utiliser les nombres. Et au lycée, vous êtes carrément dispensé de cours de maths. Au lycée, toujours, vous essayez d'intégrer une troupe de théâtre sans y parvenir. Vous rejoignez finalement les Compagnons de la Folliole, je le prononce bien, les Compagnons de la Folliole à Bar-le-Duc. Et c'est avec eux que vous débutez. L'une des premières pièces que vous jouez, c'est la Cantatrice Chauve. Vous découvrez la scène, le jeu devant un public, et c'est une révélation.
Ouais.
Après votre bac sans mathématiques, donc, vous vous installez à Paris et vous décrochez votre place au cours Florent, dirigé par Francis Huster. Il vous forme au théâtre, il vous fait jouer par exemple dans Don Juan, où vous rencontrez un certain Jacques Weber. Au cours Florent, vous côtoyez aussi Vincent Lindon, Agnès Jaoui et Mylène Farmer, qui sont vos camarades de promotion, enfin de presque promotion, parce que vous vous êtes fait renvoyer du cours Florent, mais réengagé 2 ans plus tard comme enseignante.
Ouais, vous savez tout.
Mais pourquoi vous êtes fait renvoyer ?
Alors, je sais pas, je crois que j'étais chiante. Je crois que j'étais chiante. Mais très peu de gens se sont fait renvoyer du
cours Florent. Oui, c'est pour ça que je suis très étonnée. J'ignorais totalement.
Francis Huster, toujours lui, vous offre aussi votre premier grand rôle au cinéma, dont On a volé Charlie Spencer. Mm-hmm. Vous découvrez à ses côtés l'exercice de la promo. Vous faites le tour des plateaux pour parler du film. Un jour, vous vous retrouvez à la télévision suisse. L'autre invité, c'est Johnny Hallyday.
Génial.
Et faute d'extrait du film à diffuser, l'animateur vous demande de lire l'un des dialogues. Et ce n'est pas Francis Huster, mais Johnny qui va vous donner la réplique.
Non.
On a retrouvé l'extrait. Ouais. Ouais, ouais. On écoute.
Tu t'appelles comment ?
Je m'appelle pas, je veux qu'on m'aime.
Je vais t'appeler Suzette.
Ça fait crêpe.
Tu les aimes à quoi ?
Au sucre.
Bah, sucre et Suzette, ça va bien ensemble.
Pourquoi que je t'aime, je comprends pas.
Pourquoi tu m'aimerais pas ?
Parce que je suis venue à ce mariage avec mon mec Yvan.
C'est lequel ton mec ?
C'est celui qui va te casser la gueule.
Waouh ! C'est impressionnant.
Oh non, mais Johnny. La pureté de cet homme est super super sharp dans sa vision des choses et tout ça, en fait. Et d'ailleurs, à cette émission-là, il était très, 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 enfin, pas du tout l'image du Johnny qu'on a un peu bêta, qui répond à côté. La vache, c'était du très, très haut niveau, cette émission.
Isabelle Lanty, le film qui vous révèle au grand public, c'est Tati Daniel et votre rôle de Sandrine Vaunier, une mamie-sitter qui ne se laisse pas faire face à la vieille dame tyrannique. Vous donnez la réplique à Tilla Shelton dans ce film d'Étienne Chatillez. Ce rôle vous vaut d'être nommée pour le César du meilleur espoir féminin. Le public découvre surtout votre facette comique teintée de mélancolie et il n'a pas fini d'applaudir vos prestations d'actrice et vos mises en scène. La suite, on la connaît et moi, je m'arrête là.
Merci beaucoup, Lisa Marie. C'est un beau portrait.
Très beau portrait.
Vous êtes reconnue, vous êtes retrouvée ?
Je me suis retrouvée, oui. J'ai pas beaucoup. Enfin, j'ai pas l'impression d'avoir. Enfin, il n'y a pas de différence pour moi entre avant, après, pendant, ici, chez moi.
Il n'y a aucune différence.
Non, c'est la continuité de...
Et votre maman norvégienne, vous étiez très amie avec les Robin des Bois, vous voulez toujours savoir avec le fait qu'ils appellent leur séquence l'instant norvégien ou aucun rapport ?
J'ai jamais su. Non, j'ai jamais su. Mais Grøt, ça veut dire bouilli.
Ah, c'est vraiment un mot ?
Ouais.
J'ai cru que c'était un son quand ils le faisaient eux-mêmes.
C'est un son. C'est aussi un délice, hein, parce que la rømmegrøt, c'est ce que, justement, dans Astérix, ils appelaient la crème à la crème. C'est une bouillie à base de crème.
On a déjà faim. Merci beaucoup, Lisa Marie Marquez, Isabelle Lanty. Reste avec nous, Culture Média continue.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média. Philippe Vandel.
Les Tuches 4 avec à l'affiche Jeff Tuche, c'est Baudecroux. Je trouve plus son nom à l'instant. Jean-Paul Baudecroux, on est l'émission Culture Média, c'est le patron des groupes Énergie, ça n'a strictement rien
ah,
à voir.
Drôle,
Jean-Paul Rouve, Claire Nadeau, Michel Blanc, François Berléand et Isabelle Nanty, notre invitée. Alors, c'est un conte de Noël. Mais c'est aussi un conte de Noël 2.0 qui parle des conflits familiaux et aussi qui dresse le portrait de notre société de consommation. On trouve presque une réflexion sociale sur les plateformes d'achat. Ici, c'est Magazon. On reconnaît bien Amazon. Y a un message politique dans ce film ?
Ben, y a toujours un peu un message politique dans les films Les Tuches. Le dernier, c'était quand même Jeff Tuche à l'Élysée. Et comme l'équipe des auteurs est. Une partie de l'équipe des auteurs est issue des guignols de l'info, ce sont des gens qui sont quand même très au fait de tout. Et un peu prémonitoires sur certaines choses, puisque la dernière fois, ils avaient quand même prévu l'élection par défaut. D'un président de la République. Et là, cette fois-ci, bah oui, non, mais. En fait, le film est critique, mais plus que ça, il est surtout. Il ouvre. Il défend l'idée de partage, l'idée de non-jugement d'autrui, de resavourer des choses simples, parce que l'étuche, c'est ça.
Ouais.
C'est,
souris parce qu'ils vont à la pêche. Il veut tellement ne rien faire, Jean-Paul Rouve, qu'il va à la pêche, mais sans fil de pêche.
Voilà.
Comme ça, il est sûr de rien prendre. Exactement. Sans hameçon non plus.
Voilà. Ouais. C'est juste le kiff, en fait. C'est, si on devait inventer un nouveau mot à la place de kiff, on pourrait dire oh, j'ai touché ce truc-là.
Ah, j'ai touché, j'aime bien.
Ah, quelle tuche !
Le film a été écrit il y a longtemps, parce qu'il a été écrit en 2019. Le tournage a été stoppé en mars 2020 à cause du confinement. Pardon de rappeler ces souvenirs un peu tragiques. Le film devait sortir pour Noël 2020, finalement, donc c'est pour ce Noël 2021. Il y a des choses qu'on pourrait plus dire, parce que par exemple, le petit, le gamin, il y a la glorification de la fraude aux allocations chômage, aux prestations sociales. Et vous avez vu, ça vous fait marre, vous avez vu que c'est devenu un argument de campagne de certains candidats à la présidentielle.
Ouais.
Vous auriez eu la déclaration ce matin d'Éric Zemmour.
Non, je ne l'ai pas entendu. Non,
il dénonçait les chiens truffiers des subventions.
Oui, bien sûr, bien sûr. Moi, je suis pour que ceux qui peuvent profiter, profitent. Non, mais dans le doute, je veux dire, il y a des gens qui en ont vraiment besoin. Donc, c'est ceux-là qu'il faut aider. Et dans le doute, s'il y en a qui profitent, bon, bah tant pis.
Tout à fait autre chose. Vous avez quel souvenir de votre rôle dans l'Astérix de Chabat, quand vous étiez itinériste ?
C'était un régal. J'ai tourné 5 jours. Dans ce Astérix, en plein désert, avec à mes côtés quand même 3-4 génies, dont Gérard Depardieu, que j'appelle Dieu de par Gérard, parce que franchement, il peut tout jouer quand on peut jouer Obélix.
Ouais.
Franchement, on peut tout jouer. Le charme sur Terre, au sens antique du terme, qui est Jamel Debbouze, et ce génie de Chabat qui n'a l'air de absolument pas y toucher avec sa clope et son air extrêmement décontracté, qui vous sort des idées de génie de on ne sait pas d'où. Franchement, c'était un état de grâce pour moi d'être dans le désert comme ça.
Et la potion magique, vous l'avez goûtée ?
Assez dégueu. Bah, c'est que... Je dois dire que c'est un petit... Et non, mais c'est génial quand même. C'est un truc mythique, la potion magique.
Mais oui, vous êtes la première personne qu'on a bu, donc je voulais savoir
mais
comment ça fait.
C'est dingue.
Quel goût ça a alors ?
Mais dégueulasse.
Et ça fait quoi ?
Ça fait qu'on se dit, mais qu'est-ce que c'est dégueulasse, et que ça donne une énergie folle. Et il y a ça, et les frites des Tuches, qui est quand même les frites les plus dégueux que j'ai mangées de ma vie.
Ah bon ?
Bah, les frites qu'on mange, nous, pendant le tournage des Tuches, elles sont immondes, puisqu'elles sont... Elles servent pendant les 5 heures où on tourne la scène, donc elles sont froides, elles sont molles, ça ressemble plus à rien, on les réchauffe. Enfin bon, bref.
C'est un scoop. Moi, c'est je pensais scoop. Qu'elles étaient délicieuses.
La et potion amenait... magique était dégueu.
Ouais.
Et les frites des Tuches sont dégueu aussi. Voilà, ça, c'est les deux scoops de la journée.
Voilà, vous m'avez fait ma journée, je pourrais décéder à l'instant. Caroline Speller, je ne vais pas décéder, on va vous écouter. Pourquoi je vous parlais de votre rôle d'itinériste dans le film Mission Cléopâtre d'Alain Chabat ? Parce qu'aujourd'hui, Caroline, vous allez nous parler de jeux vidéo et ça a à voir avec Astérix et Obélix.
Tout à fait, Philippe. Et Philippe, Isabelle, en termes de jeux vidéo, les Gaulois n'ont pas à rougir. On compte une quarantaine de jeux depuis 1983, plus ou moins bons. Mais 2021 sonne à grands coups de clairon, le retour des Gaulois dans nos consoles avec Astérix et Obélix, baffez-les tous. Et à chaque nouvelle aventure, tout commence de la même manière, même dans ce jeu.
Nous sommes en 50 avant Jésus-Christ. Toute la Gaule est occupée par les Romains. Toute ? Non. Un village peuplé d'irréductibles Gaulois résiste encore et toujours à l'envahisseur.
Alors ne cherchez pas trop loin le but du jeu, car tout est dit dans le titre. On baffe à tout va.
Ah, c'est le titre, baffez-les tous, baffez c'est le titre.
Mais
c'est
non,
le... c'est si, un bon titre ça. Ouais.
Donc on baffe à tout va du sanglier, du romain ou encore du pirate. Dans le jeu vidéo, on appelle ça du beat them up, littéralement les tabasser. Donc en fait, il s'agit d'un jeu de combat dont le seul moyen d'avancer, c'est de vaincre les ennemis qui apparaissent à l'écran. Dans Astérix, Obélix, baffez-les tous, vous incarnez seul ou à deux les héros mythiques de Goscinny et Uderzo. Julien Hubert, producteur du jeu chez l'éditeur Microids, nous parle du gameplay.
Astérix et Obélix peuvent à la fois baffer des Romains, en prendre un pour taper sur l'autre, ou les envoyer à l'autre bout de l'écran, etc. etc. Et il y a aussi quelque chose qu'on a véritablement voulu introduire avec ce jeu, c'était le fait de mettre énormément d'ennemis à l'écran. Plus on avance dans le jeu, plus les Romains sont nombreux, et plus on leur rentre dedans, et ça devient véritablement jouissif.
Alors donc, on sait comment ça se joue, maintenant ça ressemble à quoi ?
Alors là, le studio développement français, Mr Nut, nous met une baffe tellement le travail est remarquable. On a l'impression que la BD s'anime devant nos yeux. D'ailleurs, il faut savoir que l'animation a été faite à la main. Ça fourmille de petits détails, comme les dents des Romains qui volent sous vos coups, les bulles de dialogue ou les onomatopées à base de bon, tchac ou aïe.
Elles se mettent sur l'écran.
Oui. Ah, pour l'ambiance sonore, le studio Mr Nut a créé des musiques et des bruitages comme si nous étions dans les dessins animés avec les doubleurs Jean-Claude Donda et Guillaume Bria, les voix actuelles d'Astérix et Obélix.
Profitons de cette belle journée pour aller à la chasse aux sangliers, Obélix.
Oh oui, chic, chic, chic. Idéfix aussi est partant pour une balade. Ah, Idéfix.
Alors la question, est-ce que les fans de la BD vont s'y retrouver ?
Eh ben oui, Philippe. Ah. Déjà parce que le jeu adapte des BD existantes, il y a 6 actes. 5 d'entre eux reprennent les Normands, les Bretons, Cléopâtre, la Corse et l'Hispanie. Le 6e acte, c'est de l'inédit. Et ensuite, le studio Mr Nut a travaillé en collaboration avec les éditions Albert René. Ce travail a permis de capter tout l'univers pour être fidèle à l'esprit d'Astérix et Obélix.
Tout ce qu'on retrouve, évidemment, bah, c'est ce qu'on a lu dans ces albums. C'est l'humour, c'est les dialogues, c'est la baston, évidemment, c'est un élément très important, mais entre chaque niveau, on va un peu raconter l'histoire de l'album dont il est question à travers des dialogues, etc. On a vraiment l'impression de vivre à l'intérieur d'une de ces BD à chaque fois qu'on parcourt un acte du jeu.
Alors Astérix et Obélix, baffez-les tous, c'est un bel hommage à la BD avec ses différents modes de difficulté. Le jeu s'adapte à tous, des enfants aux joueurs qui veulent un peu de challenge. Le seul bémol, c'est le côté un peu répétitif du genre. Mais partout à qu'est-ce que c'est bon de fracasser des Romains et sans potion magique. Magic. Le jeu est disponible sur toutes les consoles et PC à environ 50 euros.
Merci beaucoup, Caroline Speller. Vous êtes une gameuse, Isabelle Nanty ?
Pas du tout.
Votre
pas
fille
du tout. Ma fille, oui, bien sûr. Mais moi, ce qui m'étonne, c'est que les jeux vidéo échappent totalement au politiquement correct. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quand même dingue. C'est l'apologie de la baston, du crime.
On peut tout faire.
C'est fou. Est-ce que ça défoule ?
Ah, je pose la question à Caroline. Est-ce que ça défoule ?
Alors, en tout cas, oui, Astérix Obélix, ça défoule. J'ai fait tester le jeu par mon fils. Il en peut plus. Là, je veux jouer à Astérix Obélix. Ouais.
Bon, bah, là, génial. Vous singez pas quelqu'un de défoulé. Vous singez quelqu'un de très énervé. Merci, Caroline Speller, Isabelle Nanty. Reste avec nous. On va parler musique. Le coffret
génial.
Christophe, c'est dans un instant. À tout de suite.
9h-11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie d'Isabelle Nanty, à l'affiche des Tuches 4, le film sort demain. On va parler musique, il y avait évidemment de la musique dans le film, mais Isabelle Nanty aime beaucoup la musique, et ça ne pouvait pas mieux tomber. Stéphanie Loire, bonjour.
Bonjour à tous, bonjour Isabelle, et où est-ce Philippe ? Bien ouais, ou bien ?
Je donne une super info, Noël arrive, et ce matin, vous venez avec une idée de cadeau à glisser sous le sapin, un coffret qui réunit l'intégrale du chanteur Christophe.
Ce bel objet que j'ai entre les mains, que je vais vous faire circuler, que vous allez pouvoir toucher. Un coffret qui s'appelle Le Beau Bizarre, inspiré du titre de son album paru en 1978. Deux mots qui lui vont comme un gant, le beau bizarre. Christophe nous quittait en avril 2020, le noctambule aux lunettes bleu nuit, l'homme qui trouvait sa jouvence dans l'exploration sonore. C'est la première fois que paraît une véritable intégrale qui regroupe tous les enregistrements studio et en public des années Dreyfus et Universal, ses labels, de 1965 à 2019. On y trouve évidemment ses plus grands tubes, Aline par exemple, mais en version italienne. Et alors, puisque même un menu de pizzeria en italien c'est sexy, quand il s'agit de l'une des plus belles chansons du répertoire de Christophe, là on atteint des sommets de sensualité.
Amore lo so, vuoi partire, l'ho già capito, sei stanca di me.
C'est beau, hein? Et quand on entend Christophe reprendre la Dolce Vita avec Julien Doré, bah ça donne envie d'aller faire un tour en Vespa la nuit à Roma derrière un bel italien, Isabelle.
Le piège était facile, tu es tombé dans mes bras. Se promenait en ville, c'était la Dolce Vita. Et cette façon que tu avais de te serrer. Le revers de mon smoking blanc cassé ne pouvait pas me placer. Même dans l'obscurité, je te revois encore.
Voilà, j'attendais que Julien Doré arrive.
Ah, on voulait Julien Doré.
Dans ce coffret, il y a aussi les deux volumes de Christophe etc. dans lesquels le chanteur revisitait son répertoire avec des artistes de différentes générations, d'Étienne Dao à Jeanne Hadet, en passant par Obispo, Arnaud, Camille, Eddie Mitchell, ou Juliette Armanet, avec qui il a repris Boule de Flipper.
Oh non.
À des endroits que je me dessine du bout des doigts sur le miroir de mon studio. Pas d'histoire, pas de photos. Et je vis comme une boule de flipper.
Philippe, dingue. Pourquoi au nom?
J'aurais jamais pensé réentendre cette chanson dans une émission de radio et dans Culture Média.
Et
Boule
alors,
de flipper de Corinne Charby. Bah, ça fait plonger dans les années 80.
Ouais, vous les connaissez bien, les années 80.
Bah,
ça
évidemment,
fait du bien.
Évidemment.
Christophe, ex-vedette estampillé yéyé, devenu icône branchée. À tout au long de sa carrière, il a su naviguer entre les succès populaires et les titres avant-gardistes. Il a laissé derrière lui pléthore d'artistes et d'anonymes orphelins. Et il méritait bien un mausolée à la hauteur de son œuvre qui a marqué la chanson et la pop française pendant près de 60 ans. Dans cette intégrale, il y a aussi de nombreuses raretés. Trois CD qui regroupent tous les 45 tours parus hors album, certains introuvables depuis des décennies, des titres disséminés comme autant de pépites tout au long d'une carrière à la créativité hors norme. Des phases B, des musiques de films, comme les titres qu'il a signés pour la bande originale du film La route de Célina de Georges Lautner en 1970. En On y retrouve trois disques live aussi, l'Olympia 74, Olympia 2002 et Intime, l'album Paradis Retrouvé qui dévoilait des inédits des années 70 et des duos inédits. Par exemple, Les Paradis Perdus, mais avec Françoise Hardy sur Europe 1 en 1974. Dans le studio,
ouais.
À l'écoute j'adore de ce morceau.
J'adore tout, Christophe.
Et bien pour tous ceux qui adorent tout, c'est l'intégrale de Christophe. Voilà. Il est accompagné d'un livret avec des photos de l'artiste et le texte est signé par le journaliste Christophe Comte.
Très très beau livret, on a l'impression qu'il y a des CD partout. Le prix ?
Le prix, c'est 90 euros et c'est chez Universal.
Pas cher.
Pas cher, vous l'avez connu, Christophe.
Moi je voulais juste dire que ma chanson préférée en ce moment, c'est Oh mon Dieu, qui est extrait du film Jeanne de Bruno Dumont, qui est une prière de la petite Jeanne, mais qui est chantée par Christophe et qui est un chef-d'œuvre.
Christophe qui chante à la première personne et Bruno Dumont qui était venu en parler. Et ça me touche que vous parliez de ça, puisqu'on avait passé un extrait de cette chanson quand Bruno Dumont était venu.
Il n'y a que des chefs-d'œuvre, Christophe. Merci.
Merci Stéphanie Loire d'avoir été avec nous. Suite et fin de Culture Média avec Isabelle Nanty. À tout de suite.
9h, 11h.
Europe 1, Culture Média.
Philippe Vandel.
Le quatrième volet des Tuches, ça sort demain. Les Tuches 4, c'est signé Olivier Barouste avec Jean-Paul Rouve, Claire Nadeau, Michel Blanc, François Berléand et notre invité Isabelle Nanty. Et c'est assez rare pour être signalé. Chaque film jusqu'à présent a fait plus que le précédent, alors qu'on sait que normalement, dans une série, dans une saga, peu à peu, le succès décline. Et là, au contraire, ça monte. C'est toute la bonne fortune que je vous souhaite pour les Tuches 4. On verra demain. Autre actualité, vous portez le rôle-titre de la série de TF1 Munch. Isabelle Nanty, c'est une avocate un peu particulière, méthode à la limite de la légalité. C'est reparti pour une quatrième saison. Vous aviez mis une condition pour rempiler. Vous vous souvenez de la condition ou pas ?
Oh, je mets tout le temps des conditions, mais elles ne sont jamais respectées.
Donc alors moi, elle m'a fait rire. Elle avait dit...
C'est un principe...
Il y a un an et demi, elle avait dit, je trouvais ça dans TV Mag, elle a dit, je suis partante pour une quatrième saison, mais je veux juste avoir les textes plus tôt, me taper 20 pages de textes par jour, même si d'autres actrices y parviennent très bien, moi non. Donc c'est clair, si ça ne change pas, je ne ferai pas la suite.
Ouais.
Est-ce qu'ils vous ont filé vos 20 pages de textes à l'avance ?
Une semaine avant. Non, les 20 pages de textes, tu rigoles. 4 épisodes, une semaine avant.
Mince.
4 épisodes avec, je sais pas, 60 noms à se remettre dans la tête, des articles du code pénal. Non, ça c'est vraiment chiant.
Il nous écoute, tu es content
de
nous
entendre. Non, je le dis, mais de toute façon, moi je dis que ce que je n'ai pas de...
Pas de filtre.
Non, mais ils le savent et puis voilà, mais bon, je l'ai faite quand même.
Oui, vous l'avez faite quand même. Est-ce qu'il y aura une cinquième saison ?
Et à condition.
C'est celle-ci. Attendez, parce que là, vous avez dit, vous parliez de politiquement correct tout à l'heure, il y a quelques instants,
oui,
Isabelle Nanty.
Allons-y.
Vous avez dit à Sud-Ouest, si on continue la série, je voudrais défendre des gens indéfendables. Mais qu'appelez-vous des gens indéfendables ?
Non, mais ce que je veux dire, c'est que je voudrais défendre déjà ce dernier, un des derniers piliers de la démocratie qui est quand même ce que représentent les avocats. C'est-à-dire, qu'on a inventé cette chose merveilleuse qui est que toute personne, tout humain, a droit à une défense. Donc, défendre systématiquement des innocents, je suis d'accord, mais enfin, c'est pas ce qu'il y a de plus exceptionnel à faire non plus.
Il vaut mieux défendre des coupables, ça fait un meilleur
rôle. Non,
ça
mais ce que je veux dire, que tout le monde a droit à être défendu parce que tout le monde a un parcours de vie, parce qu'il y a des circonstances qui font que voilà... Et puis moi, ce que j'aime dans les grands avocats d'aujourd'hui, c'est que Richard Malka, par exemple, est un grand penseur. C'est quelqu'un qui maintient quand même, qui a un bon contrepoids à beaucoup de médiocrité ambiante.
Richard Malka, l'avocat notamment de Charlie Hebdo.
Voilà, donc je veux dire, si on fait une série d'avocats, c'est aussi pour défendre des valeurs et des... Enfin, il me semble.
on est sur ses valeurs. 10h54, c'est l'heure des stories de Marc-Antoine Lebret. Tous les jours, il y a des stars qui viennent voir notre invité. Aujourd'hui, Isabelle Nanty, c'est notre Premier ministre. Vous parliez de politique tout à l'heure. Notre Premier ministre qui voulait vous dire quelques mots.
Bonjour. Bonjour, Madame Nanty. Je tenais absolument à venir, car je suis un grand fan et j'adore particulièrement les tuches.
Hein?
D'ailleurs, avec un collectif de proches, nous avons monté un fan club et on s'appelle Les Taches. Moi, dans la famille des Taches, je suis le tonton, car même si j'ai la tête du grand-père, je n'ai que 56 ans.
Hein?
D'ailleurs, je vais vous appeler ma nièce Marlène. Regarde qui est là, Marlène.
Wesh les yeux, c'est Marlène Chapiatache. Enchantée. Comment ça fait trop zizir de vous voir, Isabelle. En plus, moi, dès qu'une femme réussit un truc un peu trop, un peu hyper bien, je suis hyper fière. Super, c'est super, génial. Bah ouais, pardon, mais quand je crie, c'est en écriture inclusive. Respect, parce qu'avec les tuches, vous avez prouvé qu'on peut faire des films avec des suites qui sont bien. D'ailleurs, ça doit être pour ça que vous avez pris Michel Blanc au casting, pour lui montrer que les bronzés 3, c'est pas une fatalité. Bon, je vous laisse. J'entends mon rep qui arrive. Masculinité toxique.
Bonjour à tous. Emmanuel Tache, c'est moi, le papa et le chef des Taches. Bonjour. C'est François. François Tache. Pardon, François. Vous vous trompez de famille. Vous faites partie des grosses Taches. Tiens, d'ailleurs, en parlant de Tache, Gérald, c'est bon, tu as réussi à retirer les Taches sur les jupes des dames. Bonjour, Madame Nanty. Je sais qu'on ne se connaît pas encore, Gérald Tache, pour vous servir. Sachez que si jamais vous aviez besoin d'un logement, un petit F2 ou un petit 69, vous le dites. Je suis. Agent immobilier sur Tourcoing.
Oh. Coucou Isa, c'est Chris Castaner. Depuis que je suis sans boulot, j'ai retrouvé ma vie d'avant. Coupe mulet, gourmette, je galoche au volant de ma BX GTI sur le parking du Red Room dans le 04. En fait, je crois que j'étais le seul vrai tuche parmi les Taches. Tu vois ? Allez, faut que je vous laisse, il y a Tectonique comme Métropolis. Tu passes une tête ?
Merci beaucoup Marc-Antoine Lebret, bravo. Super. Merci Isabelle Nanty d'avoir été avec nous. Les Tuches, ça sort demain. Nous, on ne sort pas demain, mais on revient demain à 9h pour Culture Média. Culture Média, nous serons avec l'animatrice Valérie Damido, mais elle lance son magazine de déco à elle. Ça s'appelle Dami Déco. Et puis la chanteuse Clara Luciani, on va parler de sa tournée. On est ravis également qu'elle soit avec nous. Juste après le flash, Julia Vignali, Mélanie Gomez, bien fait pour vous, le programme du jour.
Alors aujourd'hui, Philippe, on va se poser la question de savoir si c'est pas mal d'être égoïste, de se faire passer avant tout le monde. Alors c'est pas très bien vu, c'est pas dans l'air du temps, mais pourquoi pas, il paraît que ça permet d'aller mieux.
Voilà, Mélanie Gomez, elle fait oui.
Je vais essayer de faire mieux. Et dans notre dossier santé bien-être du jour, on va s'adresser aux femmes enceintes et à leurs proches qui nous écoutent. On va parler de l'alimentation. Que faut-il manger mois par mois pour finalement ne prendre que les bons kilos ? Il n'y aura pas de culpabilité, du plaisir également dans l'assiette. On en parle dans quelques minutes.
C'est super, génial.
Merci beaucoup, merci encore Isabelle
Nanty. Merci à vous.
Bonne journée à l'écoute d'Europe 1. Salut, à demain.